Fabien Millet, nous nous retrouvons, bonjour, ravi de vous retrouver sur nos ondes de Radio Maria France pour le dernier volet de cette émission consacrée à la bienheureuse Chiara Luce.
Oui, bonjour Olivier, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Maria France. Très heureux aussi de se retrouver autour de ce partage sur la vie donc de la bienheureuse Chiara Luce. Donc effectivement, nous avons parcouru le chemin qui a débuté par la naissance de Chiara, par son éducation, les 16 premières années de sa vie, qui ont été un lumineux chemin nuptial avec le Seigneur. Et nous avons aussi pu traverser l'histoire aussi de sa douloureuse maladie, de sa souffrance et de cette joie qu'il habitait dans sa souffrance, donc dans ces deux années qui ont été, comme le disaient ses parents, Maria Teresa et Ruggero, qui étaient les deux plus intenses années qu'ils ont vécues avec leur fille, que ce soit d'ailleurs pour eux, pour tous les focolari qui venaient voir Chiara, pour tous ceux qui lui rendaient visite. Et je voudrais, à partir de cette circonstance, de ces deux années de maladie de Chiara, aborder peut-être quelque chose justement qui nous fait mieux comprendre le sens de ce qu'elle a voulu vivre à travers justement cette épreuve terrible d'une maladie sans issue. Et cette notion-là est très importante pour comprendre le sens, voilà, de ce que Chiara a voulu donner, offrir, comme elle le disait, dans un grand amour pour le Seigneur et pour les autres, et notamment pour les incroyants. Alors il faut peut-être comprendre justement cet aspect qui n'est pas du dolorisme, parce qu'on a tendance à penser, avec certaines idéologies ou certaines philosophies, que le christianisme, à travers la figure de Jésus crucifié, à travers la figure d'un homme souffrant, d'un homme brisé, à travers la figure de la passion, la via crucis, eh bien le christianisme valoriserait la souffrance, la douleur, la négation de soi. En un mot, le dolorisme. Et là, il faut vraiment bien comprendre que le sens justement de la vie de Chiara, dans les deux dernières années qui ont était celle de sa maladie jusqu'à sa mort, donc le 7 octobre 1990. Ces deux années ne sont pas placées sous le signe du dolorisme. Ces deux années sont placées sous le signe de l'enseignement des focolari, d'abord, auxquels Chiara appartenait et se réclamait. Et Chiara était fidèle à l'enseignement de Chiara Lubi, la fondatrice des focolari. Et durant la rencontre annuelle à Rome, Chiara Lubi insistait sur le fait que la souffrance avait le sens d'un sacrifice qu'il soit le plus beau à offrir à Jésus. Et pas un sacrifice au sens de se punir soi-même, mais un sacrifice, c'est-à-dire un don total de soi, nuptial, sponsal, amoureux, où on offre vraiment ce qu'il y a de plus libre, parce que personne ne peut, par contrainte, et surtout dans un état, comme chacun le sait, de la souffrance, avoir cette spiritualité très particulière qui a fait dire à un théologien que Chiara Luce était une mystique de la souffrance. Et cette souffrance, pour elle, était une épiphanie de l'amour, c'est-à-dire un moyen de remplir chaque instant d'une offrande, d'un don, comme si cette souffrance qu'elle vivait, qu'elle subissait, puisque le sens du mot souffrance, c'est patior, c'est subir, eh bien, elle ressaisissait sa liberté en faisant Eucharistie avec cette douleur, cette souffrance, qui était évidemment indicible dans le cadre de sa maladie. Et ce qui signifie que pour Chiara Lubi, comme pour sa disciple Chiara Luce, cette souffrance était une épiphanie d'amour et le sacrifice le plus beau qui soit à offrir à Jésus. Et Chiara Lubi enseignait à passer donc de la souffrance à la résurrection, c'est-à-dire qu'il y a une identification à Jésus, crucifié et ressuscité. Pas de résurrection sans passion, et pas de passion sans résurrection. C'est-à-dire que comme dans le baptême, et là on est en plein centre, je dirais, du mystère chrétien, Chiara Luce, baptisée donc en novembre 1971, 21 novembre 1971, a été plongée, immergée dans la mort et la résurrection du Christ, comme chacun de nous, et chacune de nous. Et cette immersion dans la mort et la résurrection du Christ, identifiée au Christ. C'est-à-dire qu'il y a deux sens dans la souffrance. C'est le sens médical qui est, celui qu'on voit techniquement expliqué dans les protocoles de soins, celui de l'accompagnement de la douleur, celui du traitement de la douleur. Et puis il y a l'autre sens, il y a un autre plan de sens qui est celui du baptême. Et le baptême nous dit que la souffrance, c'est la souffrance de Jésus crucifié. Et si effectivement on est plongé dans la souffrance, dans la passion du Christ, dans la passion du Seigneur, dans sa souffrance, dans sa croix, dans sa mort, eh bien on est plongé aussi dans sa résurrection. Et cette résurrection, eh bien, elle a donné tout son sens à la souffrance de Chiara, tout son poids dans l'offrande, dans l'Eucharistie qui a été sa souffrance comme épiphanie de l'amour. Donc il ne faut surtout pas confondre le côté morbide de quelqu'un qui chercherait à se faire souffrir, à se détruire, à se nier soi-même, à s'amoindrir, à se dégrader. Il ne faut surtout pas confondre cela avec le sens chrétien à la souffrance, du nom d'une lettre apostolique de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, le sens chrétien à la souffrance. Il y a plusieurs plans de sens, dans toute expérience humaine, il y a plusieurs plans de sens. Et le plan de sens de la souffrance de Chiara Luce, c'était le plan du baptême, le plan de la foi, c'est-à-dire la confiance amoureuse qu'elle mettait dans Jésus. Elle se définissait elle-même comme une fille amoureuse de Jésus, comme une fille qui voulait être épousée Jésus, dans justement chaque instant de sa vie, chaque mouvement de son cœur, chaque regard sur le frère, chaque action, chaque moment. Voilà, rien n'échappait à cet engagement de Chiara dans ce lien nuptial à Jésus, cette alliance, le sens même justement de l'Église, du peuple de Dieu. Donc Chiara offrait sa souffrance pour les jeunes incroyants notamment, elle a beaucoup insisté pour offrir sa souffrance aux jeunes incroyants. Et dans cette souffrance, il y avait aussi à côté, dans cette foi qu'il animait pour offrir comme une épiphanie de l'amour sa souffrance, il y avait l'héroïcité de l'amour fraternel, c'est-à-dire la vertu de charité. Hein, la vertu de charité. Et Laura, une grande amie de la famille Badano, la famille de Chiara, a témoigné dans la position, c'est-à-dire dans le recueil des témoignages de la procédure ecclésiastique de béatification. Laura a déclaré « Je n'ai jamais senti critique envers quiconque. Elle voulait toujours laisser Jésus, elle voulait toujours laisser Jésus demeurer en elle. » Donc son amour pour les autres est exprimé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, même deux jours avant sa mort, quand elle a rédigé une dernière lettre à son ami Giuliano. Et Giuliano, il y a un témoignage très émouvant de ce garçon qui s'occupe du café, donc la commune de Sassello, qui un jour discute avec Chiara, qui entend Chiara lui demander « Mais si, quand je serai mort, qu'est-ce que tu feras ?» Et Giuliano lui répond « Quand tu seras mort, je pleurerai, je t'offrirai une fleur. » Et Chiara lui répond « Bien, il ne faut pas pleurer et m'offrir une fleur, il faut te dire que Chiara Luce voit Jésus. » C'est-à-dire que là, on a la vertu à la fois de charité, la foi donc dans la parole de Dieu qui donne la vie dans le baptême, à travers le baptême, qu'on est posé à la mort et la résurrection du Christ. Il y a la charité, c'est-à-dire le mouvement vers l'autre jusqu'au bout, à la veille de sa mort. Et puis il y a l'espérance, c'est-à-dire la certitude ferme et inébranlable que la mort, le mal, la maladie n'ont pas le dernier mot. Et Chiara était aussi très sensible au grand problème de la pauvreté, au grand problème de la pauvreté qui touchait très durement les pays d'Afrique subsaharienne. Et notamment, lors de son anniversaire, comme souvent des jeunes filles de son âge recevaient de l'argent pour son anniversaire, elle a donné tout son argent pour cette cause donc, de la pauvreté. Et quand justement on a besoin d'avis médicaux aussi par rapport à cette idée que la souffrance de Chiara n'était pas simplement, qu'elle n'était pas dans l'illusion en voulant offrir sa souffrance en Eucharistie, on a les témoignages de certains médecins, comme le docteur Fabio de Marzi, qui est un jeune médecin incroyant et qui au début était indifférent et antipathique envers Chiara. Or, trois jours avant sa mort, Chiara a laissé une dédicace sur un livre pour le docteur Fabio de Marzi. Et la veille, justement, de la mort de Chiara, le docteur Fabio de Marzi apporte une lettre à Chiara pour lui demander pardon. Donc, on voit quand même que dans cette relation avec la souffrance, il n'y a pas un aspect, je dirais, doloriste, qui se complaît. Et comment pourrait-on se complaire dans une maladie aussi grave ? Et c'est à ce point, justement, qu'on peut se dire que le témoignage de Chiara Luce n'est pas une illusion. Elle a un sens dans la vie de l'Église contemporaine, puisque la nouvelle évangélisation qui était souhaitée par le pape Saint Jean-Paul II, qui a été reprise aussi par ses successeurs jusqu'au pape François, est une nouvelle évangélisation qui veut toucher plus particulièrement les jeunes, avec notamment les Journées mondiales de la jeunesse. Et Chiara Luce était intercesseur aux Journées mondiales de la jeunesse, l'année de la foi, en 2013, l'année de l'élection du pape François. Donc on a effectivement, dans cette spiritualité de Chiara Luce, un enracinement dans la foi, la certitude inébranlable, la confiance amoureuse, le lien nuptial avec le Seigneur, une identification donc avec lui à travers la passion et la résurrection. On a le mouvement donc vers l'autre, vers le frère, et notamment ceux qui sont les plus éloignés, ceux qui sont les plus antipathiques, ceux qui sont les plus éloignés de la foi, les incroyants, et notamment les plus jeunes, etc., voulaient désirer toucher. Donc à travers ce témoignage de Chiara, il y a tout l'aspect justement de ce qui nous rattache à la spiritualité chrétienne, de la passion, de la résurrection. Tout ce qui nous rattache aussi à la compréhension du Concile Vatican II, dans lequel on peut trouver la notion d'une sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Et il est assez important de comprendre justement que Chiara Luce, dans son rapport justement à la vie chrétienne, son rapport, sa relation à Dieu, était dans cette dynamique justement de l'Esprit Saint qui animait l'Église à partir du Concile Vatican II pour toucher tout le peuple chrétien, amener tout le peuple chrétien à la sainteté. Et à travers justement cette vocation de Chiara, il y a un parallèle aussi à faire avec la petite Thérèse, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus à Sainte-Face, que le pape Saint-Pilice avait déclaré être la plus grande sainte des temps modernes, et qui, cette petite Thérèse, déclarait au cœur de l'Église, elle serait l'amour. Et dans justement cette parole de la petite Thérèse, on retrouve aussi le sens de la souffrance telle que l'a vécue Chiara Luce, puisque quand elle déclare elle-même que quand elle a été opérée, qu'elle est paralysée des jambes, qu'elle est donc clouée à son lit, eh bien, elle déclare qu'elle n'a plus rien, mais elle a encore un cœur pour aimer. Et ce qui est très important aussi dans cette vertu d'espérance de Chiara, dans son union à Dieu, dans sa maladie, c'est justement le sens de cette souffrance qui est une épiphanie de l'amour. Car dans la maladie, dans la souffrance, tous ceux qui ont vécu ou qui vivent une maladie au long cours ou de hospitalisation le savent, on est sur un plan médical, je dirais, dans les mains du personnel soignant. On est vulnérable. Alors que dans le sens chrétien de la souffrance, dans le sens baptismal, dans le sens spirituel de la souffrance, il y a une action justement de la liberté qui peut offrir, comme une épiphanie de l'amour, cette souffrance. Et c'est pour cette idée, pour cela que Chiara n'acceptait pas l'idée d'aller à Lourdes pour demander un miracle en faveur de sa guérison, en disant alors si la Madone veut me guérir, et bien elle peut me guérir tandis que je reste ici. Et si elle ne me guérit pas, ça signifie que ça n'entre pas dans le plan et la volonté de Dieu. Donc dans cet admirable amour de la croix, de la passion de Jésus abandonné et crucifié, aucune marque de dolorisme, puisqu'il s'agit d'une souffrance féconde. Féconde parce qu'elle est remplie de charité. Elle est remplie, comme disait Chiara, d'un magnifique dessein, un dessein donc de l'Esprit Saint, une souffrance féconde, rédemptrice, qui va de la vie présente à la vie éternelle. Et le propos donc de Chiara Luce sur la souffrance, et que reprendra aussi Jean-Paul II dans sa lettre sur le sens chrétien de la souffrance, montre l'héroïsme de Chiara dans l'épreuve de la maladie, parce qu'elle offrait toujours sa souffrance pour les situations les plus diverses, pour l'unité de l'Église, pour d'autres personnes en difficulté, et notamment pour les jeunes incroyants. Voilà donc certains aspects du témoignage de Chiara qui nous touchent et qui nous renvoient à évidemment le calvaire, la Via Crucis, la passion du Seigneur, et qui est au sens propre un martyr, puisque c'est un témoignage au sens étymologique qui est puissant, un cas de lumière de la foi, d'espérance. D'abord foi, confiance, amour, nuptial dans le mystère du Christ, qui a aimé, sauvé à travers l'immense souffrance de sa croix, croit en la résurrection. Chiara n'a jamais douté qu'elle allait vivre dans le passage, comme la petite Thérèse disait, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Chiara n'a jamais douté qu'elle était dans cette confiance du passage dans la vie éternelle. Et elle le savait tellement que quand elle a été à la dernière extrémité, quand elle a été question de ses funérailles, eh bien, elle a demandé à ses parents de ne pas la faire inhumer dans le caveau familial, mais dans une tombe à part pour que les personnes qui voudraient venir prier sur sa tombe puissent effectivement le faire sur un lieu plus ouvert. Voilà. Et elle était très consciente, en fait, d'avoir été saisie par l'Esprit Saint, d'être conduite par l'Esprit Saint, d'avoir reçu cette grâce de vivre une maladie terrible dans l'union à Dieu. Elle disait elle-même qu'on ne pouvait pas s'imaginer quelle intimité elle avait avec le Seigneur. On ne pouvait même pas se l'imaginer. Et elle savait très bien qu'il allait se passer quelque chose à travers cette souffrance, à travers cette épiphanie de l'amour qui était l'offrande de sa souffrance, à travers le témoignage qu'elle donnait, pour apporter justement une lumière pour toucher les plus incroyants, toucher les plus jeunes et les incroyants. Et Chiara, quand on la replace dans le contexte justement de la nouvelle évangélisation, et cette jeune qui n'était pas une théologienne, n'était pas même une écrivaine mystique, il y a très peu d'écrits de Chiara, elle n'était pas non plus favorisée au sens mystique, parce que on n'a pas vraiment de traces de faveur mystique comme d'autres saints, d'autres figures de sainteté. Et à travers justement cette maladie terrible qui a été vécue par elle comme une offrande, comme une eucharistie, comme une épiphanie de l'amour, eh bien elle a témoigné du grand amour, de l'immense amour dont elle se savait aimée, en nous transmettant le message que nous sommes tous immensément aimés et qu'à travers chaque vie, il y a un immense dessein, un dessein qui est celui de l'amour de Dieu pour chacun et qui nous rejoint justement dans les situations les plus banales, les plus ordinaires, les plus cachées. Et c'est ça qui est aussi important à comprendre dans la vie de Chiara. Et Sylvia, qui est devenue une architecte et qui a connu Chiara Luce dans son adolescence et qui était aussi une jeune et Focolari, disait qu'on ne pouvait pas s'imaginer la sainteté de Chiara de son vivant. C'est-à-dire que quand on voyait Chiara, c'était une jeune fille très ordinaire, qui était, comme toutes les adolescentes, une jeune fille très ordinaire. Et que l'extraordinaire, justement, des grâces qu'elle avait reçues, de l'immense amour dont elle se sentait aimée, qui lui faisait correspondre à ce merveilleux dessein, ce magnifique dessein de l'Esprit Saint, bien, c'est ça qui, dans la maladie, a révélé cette puissante lumière de la figure de Chiara Luce. Et à travers, justement, ce témoignage, eh bien, elle nous touche à travers justement sa pureté dans son lien nuptial avec le Seigneur. Elle nous touche à travers la foi qui a été la sienne et qui peut être aussi la nôtre et qui peut aussi nous transporter justement comme des eucharisties, comme disait saint Paul, comme une offrande pure, sainte, immaculée en présence de Dieu, pour justement, à travers cet échange entre ce que nous vivons, ce que nous offrons et le don de Dieu, eh bien, il y ait un fruit qui soit porté. Pas seulement pour nous, mais pour toute l'Église. Et aussi, le message essentiel à retenir dans la vie de Chiara Luce, il ne s'agit pas d'avoir une admiration pour cette figure de sainteté comme on admire une star, bien qu'elle ait beaucoup de succès, beaucoup de popularité, mais de comprendre qu'elle a une place dans l'Église et que, comme la petite Thérèse dans l'Église, elle est vraiment l'amour. Elle incarne vraiment cet amour de Dieu qui se dispense, qui se déverse, qui remplit l'Église, qui remplit le cœur des jeunes, qui remplit le cœur des personnes qui se donnent au Christ, et que c'est dans ce don d'elle-même, dans cette offrande, dans cette liberté qu'elle a eue de se donner elle-même, eh bien, qu'elle est un message pour l'Église, qu'elle est, un petit peu l'éclaireur de la nouvelle évangélisation.
Fabien Millien, grand merci de nous avoir permis de nous laisser toucher par cette nouvelle lumineuse figure de sainteté, la bienheureuse Chiara Luce. C'était heureux de vous entendre de nouveau sur nos ondes. Encore une fois, un grand merci à vous.
Merci. Un grand merci, cher Olivier. Merci à vous.
Chers auditeurs, c'était notre émission Interview Témoignage. Nous étions avec Fabien Millier qui nous parlait de la bienheureuse Chiara Luce. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.